Je vous appelle pour dire qu'on est un petit groupe d'étudiants là à Grenoble qui avons décidé de bloquer la fac de Grenoble. On est venu ce matin, on s'est motivé à 5h30, on a barricadé la fac avec des cadenas, quoi, une partie de la fac. Et en soutien à d'autres facs sur dans la France qui sont déjà en grève. Et surtout pour dire non au CPE et pour demander un réengagement de l'État. Et donc on espère que cette mobilisation va continuer pour sensibiliser le maximum de personnes d'ici le 7 mars, qu'on soit nombreux, très nombreux dans la rue. Donc voilà, tous les étudiants de Grenoble qui m'entendent, et ben ils peuvent aussi se joindre à nous. On est sur le campus et on les attend. Voilà, merci.
Donc là, on est dans la manifestation toulousaine. Les lycéens et les étudiants sont réunis pour manifester contre le CPE. Je pense que là, on doit être 5 000 et les étudiants sont plutôt motivés. Et on va vraiment pas du tout arrêter avant qu'ils retirent leur CPE. Au revoir.
Salut Daniel, c'est Boris de Nancy. Je suis à Strasbourg pour la manif contre la directive Bolkestein. Alors on nous dit 40 000, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Ce qui fait chaud au cœur, c'est de voir des Portugais, des Slovènes, des Hongrois. Bien sûr, beaucoup d'Allemands, une grosse délégation française, mais voilà. Je voulais te faire prendre la température de la contestation syndicale. C'est pas mal, il y a de la mobilisation. Je sais que les députés européens n'ont rien à faire, mais il faut quand même se montrer, crier, lutter. Il y a de la fête, mais allez, il faut continuer. Wolkenstein, no pasaran. Salut Daniel, Boris de Nancy.
Je suis en train d'écouter RTL. Il parle des nouveaux contrats de M. Villepin. RTL, la petite machine dans la tête ultra-libérale. Vous parlez de grosse tête. RTL. Des petits mecs de droite qui piaillent là, comme des poules, et qui en veulent encore plus. Pour eux, le CNE, c'est pas encore suffisant. Il faut encore plus de flexibilité pour ceux qui veulent travailler. Parce qu'il y en a qui veulent pas travailler. Ils sont des millions. Au revoir.
Bonsoir, monsieur Mermet. Je voulais féliciter, dire bravo à Greenpeace pour sa campagne contre la France, avec Haro sur le Clémenceau et l'amiante, naturellement relayé par les médias, vous en particulier, et manipulé ces bons Français, qui jusque maintenant ne s'étaient pas préoccupés de ces pauvres Indiens, pas plus que le gouvernement de ce pays d'ailleurs, pour leur santé, et voir que sur ce chantier d'Along, ce n'est pas le premier bateau qui aurait été dépiauté, vu le nombre important de carcasses rouillées. Arrêtez d'éructer, monsieur Mermet, quand vous parlez de la droite, c'est pas bon pour votre santé. Allez, salut et bon voyage en Inde.
Le Clémenceau ne viendra pas, c'est la première victoire écologique de l'Inde. Et oui, le Clémenceau, comme on prononce ici, ne viendra pas, on vient de l'apprendre, et Gopal Krishna est heureux, et Gopal Krishna est fou de joie. Gopal Krishna, c'est le coordinateur de Banasbastos. Banasbastos est une association anti-amiante indienne qui est en coordination avec beaucoup d'ONG à travers le monde, dont Greenpeace, dont des associations anti-amiante françaises et de toutes parts. Eh ben, ce soir, faites leur victoire. Le Clémenceau ne viendra pas se faire désosser à Along avec ses tonnes, ses centaines de tonnes d'amiante. Ça prouve qu'on ne perd pas toujours. C'est une victoire d'autant plus considérable vu du côté des associations indiennes. Alors évidemment, ça ne règle pas le fond du problème. Le fond du problème, la récupération et le recyclage des déchets, c'est-à-dire que les pays du Nord, les pays riches, se servent des pays pauvres comme poubelles. Inde, Bangladesh, Pakistan, Afrique noire, Chine, etc., etc. Et c'est les conditions de recyclage qui sont évidemment en cause, et le Clémenceau aura eu le mérite d'attirer l'attention sur les terribles inégalités qui continuent de se creuser dans cet énorme pays qu'est l'Inde, une croissance sans doute très très importante, mais qui profite aux classes moyennes, c'est-à-dire à 20-25% de la population, 250 à 300 millions de personnes, selon des estimations très très vagues, mais pour le reste, eh ben, c'est très très difficile, avec environ 35 à 40% de la population qui vit avec moins d'un dollar par jour. Donc c'est une différence terrible, et bien sûr que quand on gagne moins d'un dollar par jour ou un dollar par jour, on est prêt à faire n'importe quel boulot, fût-il très très dangereux, comme de désosser des bateaux bourrés d'amiante. On s'en fout complètement, et on vous rapportera des reportages qui montre que pour des tas d'autres tâches tout à fait dangereuses et terribles, eh ben on est prêt à tout quand on est dans une telle, évidemment, dans une telle situation. Le problème donc n'est pas réglé, mais le Clémenceau aura eu le mérite d'attirer l'attention, et surtout aussi en Inde où les écolos ont bien du mal à faire comprendre ça, pour les raisons que je viens d'indiquer, à leurs compatriotes. Merci à tous ceux qui ont laissé des messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, beaucoup plus de messages que cette pauvre émission ne peut en diffuser, mais je vous remercie encore. Je rappelle le numéro du répondeur, qui est le 01 56 40 37 37. Aujourd'hui on va retrouver Eric Hazan pour un livre qu'il vient de publier, un petit livre formidable qu'il vient de publier ces jours-ci sur le langage. Si vous écoutez cette émission jusqu'au bout, vous n'écouterez plus tout à fait ce qu'on vous raconte à la radio, par exemple, de la même façon. C'est juste après les messages que voici. 01 56 40 37 37, le numéro du répondeur, je le rappelle.
Bonjour à tous et bonjour à tous les Bordelais. Que le comité de mobilisation contre le CPE appelle demain un rassemblement place de la Victoire à 11h30 pour justement s'opposer au CPE et demander son retrait. Alors, il y aura des débats, il y aura bien sûr aussi des scénettes théâtrales, de la musique. Le mot d'ordre, c'est combatif et festif. Alors si vous voulez venir avec votre pique-nique et participer à cette mobilisation, tous les Bordelais sont les bienvenus et tous ceux qui sont autour aussi. À bientôt, salut.
C'est pour annoncer la troisième rencontre des repères de la Bachisissuie à Toussaint, en Seine-et-Marne, au sud, près de Villy-la-Forêt. C'est au café La Tête des Trains, place de l'église, à Toussaint. Et c'est le samedi 18 février qui arrive, à 21h. On passera un petit film sur la télé américaine et on discutera après. Alors ceux qui veulent arriver plus tôt peuvent arriver à partir de 19h30 avec leur pique-nique si ça les intéresse, ou prendre sur place des salades ou des tartines que c'est proposé dans les habitudes du café. Voilà, bienvenue à tous, on vous attend au milieu de la Seine-et-Marne. Salut.
Salut les amoureux, vous avez passé une bonne soirée? Alors sachez que l'an prochain, petit changement de programme pour la Saint-Valentin. Grâce au projet de loi sur l'immigration présenté la semaine dernière par le ministre de l'Intérieur, fini les longues histoires d'amour entre couples franco-étrangers. Et oui, immigration choisie égale immigration jetable. Alors je vous invite à aller sur le site, vous renseigner, qui provient du collectif Unis contre l'immigration jetable, qui a été créé il y a quelques semaines, et qui réunit plus de 150 organisations, collectifs de sans-papiers, partis politiques, syndicats et associations diverses. www.contre-immigration-jetable.org. Vous y trouverez toutes les analyses sur les dangers de ce projet de loi. Et je vous invite au passage à signer la pétition en ligne, et pour les Parisiens, à vous joindre à la grande manifestation de sans-papiers de ce samedi 18 février, départ 14h, place Clichy, en direction de République. Bon, bah, pour ceux qui sont pas amoureux, ne vous en faites pas, le gouvernement a aussi pensé à vous. Vous êtes salarié, vous êtes étudiant, ou encore concerné par le projet de société, je vous invite à aller sur le site www.contre-immigration-jetable.org. Salut.
Je comprends que les gens qui comprennent que je ne les comprends pas, je les comprends.
LQR, la langue de la Ve République.
C'est ça.
C'est ça.
Comment ce langage est au fond une propagande occulte et comment ça s'organise?
Je préfère les gens qui ne me comprennent pas.
Lingua quente respublicae.
Si aujourd'hui, la LQR devenait inaudible.
Je préfère comprendre les gens qui comprennent que je ne les comprends pas.
Ce serait pour l'oligarchie dominante, extrêmement grave.
On écoute.
Salut, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet avec Eric Hazan, LQR, la propagande du quotidien.
Flight number 2, arriving from...
Comment on va dire, Eric Hazan, lingua quante respublicae?
C'est ça.
C'est ça.
C'est comme ça qu'on disait quand j'étais au lycée.
Oui, la langue de la 5e République, LQR. Voilà, c'est le titre du bouquin que vous publiez dans la collection Raison d'agir, un petit livre... petit format qu'on peut mettre dans sa poche et qu'on peut lire assez vite seulement, hein, assez vite seulement, parce que c'est quand même assez dense cette histoire.
Oui.
Alors on va essayer d'expliquer de quoi il s'agit. Lingua quante respublicae. C'est un titre qui fait référence au travail d'un philologue allemand, Victor Klemperer.
Klemperer, oui.
Victor Klemperer,
cousin du chef d'orchestre
Otto Klemperer, et qui a publié en 1947. Un bouquin intitulé LTI, Lingua Tertii Imperii.
La langue du Troisième Reich.
La langue du Troisième Reich. Alors déjà, analogie entre LQR et LTI.
Alors j'ai pas voulu quand même assimiler la Cinquième République au Troisième Reich, hein, c'est, ni même faire la moindre comparaison. Simplement, il m'a semblé qu'aujourd'hui, comme à cette époque, il y a surgissement et développement d'une nouvelle langue. Je pense que la nouvelle langue de la Ve République n'utilise ni les mêmes moyens et n'a pas les mêmes buts que la langue des nazis, évidemment. Mais c'est quand même une langue dans laquelle, quoi qu'on fasse, on est absolument submergé toute la journée, pas seulement en lisant le journal, mais aussi en prenant le métro, en écoutant les annonces, hein, quand on entend à la suite d'un arrêt de travail de certaines catégories de personnel, on est dans la LQR. Quand on regarde les affiches publicitaires, quand on lit les incitations de la RATP dans les rames de métro ou dans les couloirs, ou pour peu que en rentrant chez soi, on passe par le supermarché, quand rentrant chez soi, on ouvre le courrier en provenance de la mairie ou de l'école des gamins, et qu'ensuite, après dîner, on regarde la télévision, eh bien, on a été tout le temps plongé dans la LQR.
C'est une approche passionnante parce que vous prenez ce que tout le monde... Alors vraiment, le matériau le plus commun, le plus courant, le plus à la portée de tous, à la portée de toutes les bouches et de toutes les oreilles, qui est le langage quotidien qu'on entend... Par exemple, dans cette radio, j'ai trouvé ce bouquin particulièrement intéressant parce que c'est ce qu'on fait à longueur de temps, nous autres qui sommes de ce côté du transistor, c'est-à-dire qu'on fait bel et bien passer, même si on essaye d'être prudent et de penser quand même un peu à ce qu'on dit et penser ce qu'on dit aussi, mais enfin quand même, à longueur de journée, nous passons ce langage et on entend ce langage et on diffuse ce langage sur nos antennes. Alors, pour revenir à Klemperer, vous nous dites que ce philologue, donc, ce que vous n'êtes pas, vous vous présentez
non.
pas comme un, comme
non,
un philologue,
du tout.
Hein,
non,
mais simplement comme moi quelqu'un qui essaye de prendre un certain nombre de mots et qui essaie, à partir des mots, qui réfléchit et qui essaye de voir ce que ces mots tentent de cacher.
C'est ça. Comment ce langage est au fond une propagande occulte et comment ça s'organise? Parce que, il faut pas penser qu'il y a derrière, il y a un complot. Il y a personne. Il y a pas de conférence de Wannsee de la LQR. Il y a pas des gens qui se sont réunis d'un jour dans un bureau en disant on va créer une langue et on va la répandre. Il y a pas de complot. Simplement, il y a une espèce de communauté de formation et d'intérêt des gens qui la forgent et qui la répandent. Ils sortent des mêmes écoles. Il y a d'ailleurs des grands mouvements entre eux, hein, parce que entre le passage du privé au public, du culturel au financier, on le voit tous les jours. Donc ces gens-là ont une communauté de formation. Ils sont passés par des écoles où on leur a enseigné les mêmes mots, les mêmes techniques, où on leur a expliqué qu'ils faisaient partie des élites de la nation, dans ces termes-là. Mmh. Et puis il y a aussi une communauté d'intérêt. Parce que tous ces gens qui sont des, ce qu'on appelle dans LQR, ce qu'on appelle des décideurs, tous ces gens-là, ils ont grand intérêt à ce que la guerre entre les opprimés et les oppresseurs, ou entre les exploités et les exploiteurs, reste à l'état de drôle de guerre ou de guerre froide.
Oui, ils sont des conservateurs, ils veulent conserver. Bah c'est conservateur, ça veut dire conserver les avantages.
C'est ça.
ce qu'ils ont.
C'est ça.
Tout simplement. Mais alors, pour revenir encore une fois à Klemperer auquel vous vous référez, c'est il avait observé que la propagande nazie n'a pas été tant produite par les tracts, les discours, les affiches, enfin toutes les mises en scène connues d'ailleurs du Troisième Reich sur l'inspiration du grand Goebbels, l'irremplaçable Goebbels, mais que ça avait pénétré par insinuation, par imprégnation, par diffusion et absorption inconsciente dans ce qu'on appelait les masses, qui n'est pas un mot innocent non plus, celui-là.
C'est ça. D'ailleurs, la langue du Troisième Reich, comme la langue de la Cinquième République, crée peu de mots. Ce sont des langues qui sont peu inventives, mais elles prennent certains mots et puis elles les tordent, elles les essorent jusqu'à en changer le sens. Il y a des mots qui deviennent des mots absolument... Prenons par exemple le mot « croissance ». La croissance, eh bien, c'est un mot clé de la LQR. On discute aujourd'hui pour savoir si la croissance de l'année prochaine va être de 1,6 ou 1,7. Ce qui est évidemment une farce. D'ailleurs, de temps en temps, les politiques laissent échapper qu'ils eux-mêmes pensent bien que c'est une farce. Thierry Breton, qui est ministre de l'économie, a dit un jour que le plancher de sa fourchette précédente était devenu le plafond. Ce qui est quand même... assez bouffon comme façon de s'exprimer. Moi, je pense que les gens qui conjecturent sur la croissance, qui font des prévisions sur la croissance, comme les augures romains, je pense que quand ils se croisent dans la rue, ils doivent rire. Oui. Et c'est très important, la croissance. Pourquoi ? D'abord, il y a la magie des données chiffrées, qui est une des caractéristiques de la LQR, qui vient des économistes et de leurs alliés, les sondeurs et les statisticiens. La magie du chiffre. Et puis, la croissance, avec, disons, le prix du pétrole ou le taux d'intérêt américain, ça fait partie des contraintes extérieures. Mot extrêmement important aussi. Les contraintes extérieures qui réduisent notre marge de manœuvre. À partir du moment où la croissance n'est pas au rendez-vous, ça fait peser sur les contraintes, ça réduit la marge de manœuvre. Donc, à ce moment-là, on n'y peut rien. La conclusion logique, c'est restez chez vous et regardez la télévision.
On fait des erreurs au quotidien sur TF1. Une petite pause toute courte.
Pourquoi tu m'appelles Saint-Paul alors tu m'appelles Saint-Pierre ? Pourquoi tu m'appelles Couffron alors je m'appelle Cornet ? Pourquoi tu m'appelles Déclaration de plainte alors je m'appelle Avis poursuite judiciaire ? Pourquoi tu m'appelles Sécu alors je m'appelle Sicard ? Pourquoi tu m'appelles Histoire alors que je m'appelle La Guerre ? Pourquoi tu m'appelles Erreur alors que je suis humain ? Pourquoi tu m'appelles La Viande alors que je m'appelle La Mer ? Pourquoi tu m'appelles Critique alors que je m'appelle Primaire ? Pourquoi tu m'appelles Déjà alors que je viens à peine de naître ? Alors je m'appelle La Merde.
Voilà ce que vous débusquez dans la LQR. Je rappelle, rappelons-nous bien ce que ça veut dire LQR, lingua quaeteris publicae. C'est une dépolitisation. Oui. C'est de dire de façon puissante, violente et définitive, vous n'y pouvez rien.
C'est ça.
C'est ça.
C'est comme dit Rancière, c'est la réalisation de la politique par la suppression de la politique.
Ouais, c'est ça. Alors, on va prendre un certain nombre d'exemples, de mots. D'abord, est-ce que c'est pas toujours un peu le cas? Est-ce que chaque époque et chaque pouvoir, chaque domination ne fabrique pas sa langue, sa novlangue, comme disait Orwell?
Si, sans doute. Je pense même que, je sais pas, il devait y avoir une langue publique très codée déjà sous Henri IV. Mais il y a un phénomène nouveau qui fait que la LQR, à mon avis, est quelque chose qui est sans précédent en France. C'est le fait que, d'une part, il y a un mégaphone formidable que donnent les médias, la télévision, les journaux, là, qui n'existait pas jusqu'à une époque relativement récente. Quand il y avait une chaîne de télé en noir et blanc, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Il y a donc ce mégaphone récent. Et puis, il y a le fait que... on exerce un rôle dominant très important aujourd'hui dans la constellation du néolibéralisme, les économistes et les publicitaires, qui sont deux catégories dont le pouvoir, l'influence est relativement récente. Et je pense que c'est eux qui modèlent et qui forgent et qui répandent essentiellement cette langue. Prenons par exemple, si on parle des publicitaires, il y a véritablement un va-et-vient entre la langue des publicitaires et la langue des politiciens. Par exemple, optimiser ou positiver sont passés directement de la communication des grandes surfaces dans le langage des politiciens. Et dans l'autre sens, la sécurité, qui est quand même un des grands thèmes de la politique française, surtout en période électorale, un des grands mots de la politique française, la sécurité, elle est passée chez les lessiviers. La sécurité pour ce que vous avez de plus précieux. C'est le bon détergent qui n'abîme pas vos lainages ou le bon savon qui n'abîme pas vos bébés. Donc il y a vraiment un va-et-vient entre l'univers de la publicité et l'univers de la politique.
Alors, seulement, si vous considérez que c'est la langue de la Ve République, la Ve République commence en 1958, comment ça commence?
Ça commence doucement. Quand on lit les journaux, j'ai lu les journaux, j'ai étalé des lectures de journaux sur toutes ces années-là, et je me suis rendu compte que le gaulo-pompidolisme avait quand même marqué une modernisation du vocabulaire. La Quatrième République, c'était encore un temps très ancien. Tout le vocabulaire, tous les journaux parlaient comme du temps de la Troisième République, avec, disons, la greffe du style héroïque de la résistance. Mais à partir de l'arrivée, disons à partir du début des années 60, de la Cinquième République donc, les choses changent. Elles deviennent beaucoup plus brusques, moins polies. C'est là qu'on voit arriver venant du côté des publicitaires ces phrases sans verbe. Aujourd'hui, je sais pas, il peut y avoir, peut-être qu'aujourd'hui il y a une manchette d'un journal lui a écrit Mahomet deux points la violence déchaînée ou trop deux points le juge en question. C'est quelque chose de relativement récent. Autrefois, ça aurait pas du tout été titré de la même manière.
Alors ça, c'est le poids des mots, c'est la formule choc.
C'est ça, la formule choc. La formule choc apparaît avec les débuts de la Ve République. Mais le vrai virage, il se place dans les années 90 avec la domination progressive et incontestée du néolibéralisme. D'ailleurs, néolibéralisme, c'est un euphémisme. Parce que qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme? Ça n'est jamais que le dernier avatar du capitalisme.
Oui.
Mais capitalisme, c'est pas joli.
Ah non.
Il y a derrière, il y a des bénéfices, il y a des gros messieurs qui roulent dans des grosses voitures. Néolibéralisme, c'est beaucoup plus gentil. Libéralisme, la liberté, ça, c'est qui est contre la liberté? Et d'ailleurs, on ne parle plus de bénéfices. On parle de résultats nets. On ne parle plus de profit, mais de retour sur investissement. Les mots ont changé.
Alors vous avez toute une séquence sur les euphémismes. Ne dites pas licenciement, dites restructuration. Ne dites pas chômeur, dites demandeur d'emploi. Ne dites pas grève, dites mouvements sociaux. Ne dites pas infirme, dites handicapés. Ne dites pas les pauvres, mais dites des personnes modestes.
Ah, ça c'est formidable. Ça c'est quelque chose. Les gens de conditions modestes, les familles modestes, comme s'ils n'en avaient pas le droit de pas avoir d'argent et d'être orgueilleux. C'est quand même extraordinaire ce mot modeste, quand on y pense. Et il est passé complètement dans les mœurs, personne ne relève ça.
Plus que jamais avec Carrefour, je positive.
Il y a une jeune chanteuse qui n'est pas tout à fait de ma génération, mais qui parle aujourd'hui de positive attitude.
Je positive.
Je vous recommande la positive attitude. La positive attitude, elle est très importante, alors elle est quelquefois décriée, alors... au lieu de terminer sur une citation de Laurie qui ne serait pas forcément assez sérieux, je terminerai sur René Char qui disait exactement la même chose, ne prenez pas la vie par les épines.
Voilà, de Laurie à René Char, Jean-Pierre Raffarin au micro, Dan-Laure Danier.
Alors Eric Hazan, on continue avec autour de ce petit bouquin que vous sortez, LQR, la propagande du quotidien quand même, hein, vous y allez fort. Vous dites que votre but dans ce travail, c'est d'identifier, de décrypter cette nouvelle version de la banalité du mal. C'est costaud quand même, vous voyez, la banalité du mal dans la langue parlée aujourd'hui.
C'est une référence évidemment au livre d'Anna Arendt, Eichmann à Jérusalem, essai sur la banalité du mal. Oui, je pense que cette nouvelle langue, issue du langage des économistes et des publicitaires et répandue à flot dans notre vie quotidienne est une manière pour nous faire accepter l'inacceptable. Et pour nous faire tenir tranquille, parce que un des traits de cette langue, c'est la mise à l'écart de tous les mots de l'émancipation. Émancipation comprise, d'ailleurs. Émancipation n'est plus un mot très acceptable aujourd'hui. Mais il n'y a plus de classe. Il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus que des immigrés. Il n'y a plus de classe ouvrière. Et même la classe moyenne, sur laquelle tous les penseurs, tous les philosophes politiques depuis Aristote fondent de grands espoirs en disant qu'elle allait phagocyter les extrêmes et finir par régner sur le monde. Même la classe moyenne a perdu de son aura. Donc, plus de classe, mais des couches sociales, des tranches d'âge, de revenus, d'imposition, des catégories socio-professionnelles, des milieux, mais plus de classe et encore moins de lutte qui les opposerait entre elles. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la disparition des exploités. Il n'y a plus d'exploités. Pourquoi ? Parce que les exploités supposent la présence d'exploiteurs. Et si on parle d'exploiteurs, on revient à la lutte des classes. Donc on a remplacé les exploités par des exclus. Ce qui est très intéressant, ce qui est évidemment une substitution tout à fait intéressante pour le maintien de l'ordre, parce que des exclus, il n'y a pas d'exclueurs, ça n'existe pas. Donc les exclus, c'est leur faute. Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les aider, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire preuve envers eux de compassion, mot qu'on croyait disparu depuis le 19e siècle et qui est réapparu dans le vocabulaire de George Bush et de Nicolas Sarkozy. Donc on remplace la lutte pour la justice par l'action humanitaire. Et la figure héroïque de l'homme du peuple, disons Jean Valjean, elle a disparu au profit de la pauvre silhouette de l'exclu qui est un personnage sans papier, sans voix, sans droit, sans parole, sans domicile.
Mais Éric Cazan, encore une fois, à l'origine de ces mots, à l'origine de ce langage, il n'y a pas une fabrique quelque part avec des gars qui sont sur des planches devant des ordinateurs en train de dire, tiens, au lieu de dire triomphe du néolibéralisme ou triomphe de la nouvelle forme du capitalisme, on va appeler ça la crise. Ouais, ça va passer les gars, la crise. Et puis on essaie, on appelle Yves Montand, dis-nous comment tu dis la crise. Et voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors vous dites, oui, mais ça, c'est produit par des milieux qui ont des convergences de formation, d'éducation, et puis d'intérêts, on vient de le dire, d'intérêts qui sont les leurs, c'est-à-dire de défendre leur patrimoine. Ils sont des conservateurs, ils veulent soit grimper, soit se maintenir au stade où ils ont réussi à grimper. Mais c'est quand même assez flou, hein, sur la production de tout ça.
Oui, oui, il faut certainement se détourner, refuser la thèse du complot. Les gens qui se réunissent dans un bureau pour dire on va inventer tel et tel mot. Évidemment que non. Si c'est flou, c'est que là, en réalité c'est une genèse qui est floue, puisque il y a personne de précis qu'on puisse accuser de créer et de répandre cette langue. C'est tout un milieu, c'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui chacun dans leur coin inventent et répandent. C'est pour ça que c'est flou, c'est vrai, mais je pense que ça répond à une réalité. Mmh. La réalité est floue, là. Ce n'est pas une langue. Et là, je dirais que c'est une différence avec la langue du Troisième Reich, qui, elle, était pas du tout floue et on savait très bien d'où ça venait. Ça venait des services de Goebbels de façon tout à fait claire, autoritaire, policière, ce qui est pas du tout le cas, là. Là, c'est beaucoup plus une espèce de rhizome.
Alors, vous prenez, on va prendre un certain nombre, quelques mots, comme ça, il faut quand même lire le livre, sinon c'est pas drôle, puis il y a des moments drôles quand même, hein. Une citation, il y a quelques personnages, il faut quand même pas louper les passages où il est question d'Alexandre Adler et d'autres comme ça, mais ça, mettons ça de côté, c'est les petits bonbons qui récompensent le lecteur attentif. Quelques facéties de notre ami Adler. Mais vous parlez des mots essorés, par exemple, hein, ce que vous appelez l'essorage sémantique. Vous prenez des mots comme citoyen, citoyenne, ou l'expression droit de l'homme.
Je pense que y a des mots qui ont, à force d'être utilisés à contresens et à répétition, finissent par perdre leur sens initial. Je pense que aujourd'hui, droit de l'homme, qui a été quand même pendant la Révolution une espèce de paradigme révolutionnaire, hein, j'ai lu que Chaumette, qui présidait la commune insurrectionnelle de août 92, disait le rocher des droits de l'homme. Mmh. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme? En France, et on peut dire du point de vue du monde occidental en général, c'est essentiellement un produit d'exportation vers les pays qu'on appelle en développement ou émergents quand ils ont du pétrole. Produit d'exportation en compagnie des mines antipersonnelles, des stocks de sang contaminés et des médicaments périmés et des directives du Fonds monétaire international. Il y a un autre mot essoré qui est très intéressant, c'est social. Mmh. Social est un mot très simple qui a très longtemps voulu dire simplement en rapport avec la société. Le contrat social de Rousseau, c'est le contrat pour vivre en société. Et puis il y a eu toute une dérive du sens, la sociale au XIXe siècle, la sociale pour Louise Michel ou Jules Vallès, c'était le pouvoir du peuple, c'était la commune, c'était...
Vive la sociale.
Voilà, vive la sociale. Et aujourd'hui, le mot en est venu à désigner essentiellement ce qui permet de faire accepter aux gens l'inacceptable. C'est pour ça qu'on a des travailleurs sociaux, des logements sociaux, du dialogue social, que la gauche préconise une Europe sociale sans jamais dire de quoi il s'agit. Et puis au bout, eh bien, malheureusement, il y a les plans sociaux, qui sont du licenciement collectif. Et puis à la fin de la fin, il y a les cas sociaux, pour lesquels malheureusement, on ne peut rien.
Je préfère les gens qui ne me comprennent pas. Les gens qui comprennent que je ne les comprends pas. Oh, écoute.
Alors, on continue avec la LQR, Lingua Quinteres Publicae, une expression qui vous tient à cœur, si on peut dire, pour la démolir et la mettre à nu. C'est l'expression de la société civile.
C'est ça. La société civile, c'est aussi un très vieux mot hein, qu'on trouve dès le XVIIe siècle en français. Disons que Le pouvoir actuel, le pouvoir, crée de façon presque artificielle une société civile supposée lui faire contrepoids. C'est-à-dire que tout ce qui est société civile est supposé désintéressé, honnête, efficace, par opposition au monde politique, corrompu, inefficace, bureaucratique, etc. Et en fait, ce qu'il y a de comique, c'est qu'au fond, cette société civile est un contrepoids nécessaire, que les gens qui sont également du côté de la politique utilisent et manipulent et instrumentalisent ce concept de société civile, en particulier, par exemple, avec les organisations non gouvernementales qui sont devenues aujourd'hui un mécanisme relais du pouvoir, de façon très claire, après avoir été autre chose autrefois.
Une autre expression, les valeurs universelles, ça aussi.
Oui, ça, les valeurs universelles.
Nos valeurs universelles.
Ça, c'est le langage des politiques. Alors, c'est véritablement le langage des politiques que le président de la République emploie, valeurs universelles, valeurs de la France, 5 fois par discours. C'est au chapitre de... Une chose que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est on se glorifie le plus pour ce qu'on possède le moins. C'est-à-dire, la France, terre d'accueil. La France, terre d'accueil. La France a été une terre d'accueil pendant quelques semaines depuis le Moyen-Âge. Pendant la Révolution, ça a été une terre d'accueil. Ça a été une terre d'accueil pendant quelques semaines pendant la Commune de Paris. Où véritablement, c'était un mouvement internationaliste où les étrangers étaient vraiment les bienvenus, où le ministre du Travail était un ouvrier allemand, et où les généraux de la commune étaient des immigrés polonais. Extraordinaire quand on y pense. La confiance dans les étrangers. Alors que le reste du temps, les étrangers sont soit abandonnés à leur sort, soit persécutés. Et en ce moment, on peut pas dire que la France, terre d'accueil, avec le le projet de loi qui se prépare sur l'immigration, on peut pas dire que la France terre d'accueil soit vraiment à l'ordre du jour. Et la France des droits de l'homme, c'est pareil. Ce sont des valeurs que l'on met en avant sans cesse pour masquer l'application de réalités qui leur sont tout à fait contraires.
Je reviens, en vous écoutant, je repense à votre premier argument qui est que tout ça, les publicitaires et la publicité y est pour beaucoup. Effectivement, on est habitué aux mensonges publicitaires.
C'est ça.
C'est tout à fait normal de se faire bourrer le mou par des mensonges quotidiens.
Perdre 4 kilos en 2 jours, ouais, c'est la même chose.
Voilà. On se dit, oui, mais non, on est malin, on sait que c'est pas vrai, ça nous glisse dessus, comme la goutte d'eau sur la plume du canard. Mais ça finit quand même par mouiller le canard, oui, oui. Et le mouiller jusqu'à l'os, quoi. Le canard est mouillé. Alors, un autre mot sur lequel vous analysez, que vous décortiquez aussi. Ah oui, c'est votre côté. On va parler un peu plus de vous, si on a le temps un peu. Vous étiez chirurgien autrefois. Il y a quand même un côté scalpel, hein, de votre façon de bosser, de prendre des mots les uns derrière les autres. C'est alors dans le domaine de l'antiterrorisme, ce mot qui n'est pas neuf, celui-là, il y a le mot arabo-musulman, enfin il y a l'allocution arabo-musulman là qui fait florès actuellement.
Ah oui. Je cite dans le livre un discours de Villepin quand il était ministre de l'Intérieur, hein, qui fait très attention quand même lui à ce qu'il dit d'habitude. Il parle des violences à caractère antisémite et il dit 50 d'entre elles sont dues à des individus d'origine arabo-musulmane. Mmh. Qu'est-ce que c'est arabo-musulman? D'abord, c'est fondé quand même sur la formidable ignorance des Français qui pensent que tous les Arabes sont musulmans et que les Iraniens et les Turcs sont des Arabes. Donc ça fortifie, c'est fondé sur cette ignorance et ça la fortifie. Et puis ça crée l'amalgame de tous les basanés, de tous ceux qui sont fouillés à corps dans le métro, placés en garde à vue, reconduits à la frontière. Arabo-musulmans, qu'est-ce que c'est? Alors là-dedans, en plus, il y a des Français. Alors les Français, il y a un petit sous-groupe qu'on appelle les Maghrébins. Mmh. Les Maghrébins, c'est extraordinaire aussi. C'est vraiment une façon de désigner les gens. Aucune de ces personnes qui sont nées ou qui vivent encore en Afrique du Nord ne se considère comme Maghrébin. Ils se considèrent comme un habitant de Bizerte ou un Marocain ou un Kabyle, mais jamais un Maghrébin. Maghrébin, c'est vraiment une manière, un euphémisme pour ne pas dire arabe. Mmh. De même que, d'ailleurs, issus de l'immigration. Les jeunes issus de l'immigration, dont on a beaucoup entendu parler ces temps derniers, quand quelques voitures ont brûlé, issus de l'immigration, jamais on ne le dit de gamins ou gamines, ou jeunes gens ou jeunes filles, de parents portugais, mm-hmm. ou polonais. Moi-même, dont les parents ont été naturalisés en 1946, jamais on m'a dit que je suis issu de l'immigration. Mm-hmm. Non, issus de l'immigration, ce sont des jeunes qui sont nés dans des familles arabes.
C'est des bougnoules, quoi, voilà.
Oui. Ils habitent les quartiers sensibles.
Oui.
Ils sont guettés par le communautarisme, sinon par le redoutable salafisme, qui risque d'en faire des islamistes. Islamiste, c'est intéressant. C'est un doublet très pervers de islamique. Islamiste est apparu depuis le 11 septembre. Ça a l'avantage de rimer avec terroriste. Et de islamique, islamiste lié à Al-Qaïda, il n'y a qu'un pas.
En tous les cas, ce qui est convaincant dans votre démonstration, c'est la volonté, encore une fois, non affichée, difficile à identifier de façon précise, mais il y a là une volonté de nous dépolitiser, quoi, hein, de nous démobiliser et de faire disparaître autant que qu'on puisse le faire les lignes de fracture, de lutte et de crise réelle à travers nos sociétés.
Oui, je pense que c'est ça. Alors, encore une fois, il n'y a pas de complot, donc il n'y a pas de but très bien défini par un groupe. Hein, il ne faut pas le voir comme ça. Mais c'est un effet. L'effet, c'est de gommer le dissensus, de gommer les luttes, de faire en sorte que le mythe de la cité unie, le mythe du peuple uni, soit maintenu envers et contre tout. D'ailleurs, quand il y a une vraie fracture, par exemple, au moment où le non l'emporte au référendum constitutionnel sur l'Europe, les journaux, les radios, les télés, se gardent bien de considérer que ceux qui ont voté non sont des adversaires, des gens qui sont fondamentalement pas d'accord. On dit simplement, on ne leur a pas bien expliqué.
Ah oui, il y a la pédagogie.
Voilà. Oui. On a manqué de pédagogie. D'ailleurs, une des choses qui a été le plus soulignée, c'est que le nom l'avait emporté grâce à l'apport de jeunes des régions rurales peu fortunées. Autrement dit, si le nom l'a emporté, c'est des jeunes ploucs sans éducation. Et donc, on leur a pas bien expliqué. Ce sont pas des ennemis, ce sont pas des adversaires, ce sont, au fond, finalement, si on leur avait bien expliqué, ils seraient d'accord. Donc, les lignes de fracture sont gommées. On est un grand peuple uni, et c'est pour ça que le mot ensemble.
Ah oui.
Prolifère de façon incroyable. À un moment où, justement, tout est fait pour que ça soit l'isolement, que les gens soient atomisés. Eh bien, le mot ensemble prolifère sur les murs, dans le métro, attentif ensemble, toutes les publicités pour des compagnies d'assurance, pour des radios que je cite dans le livre, il y a ensemble. Le mot ensemble est un leitmotiv aujourd'hui pour, encore une fois, faire en sorte que les lignes de fracture disparaissent et que le mythe de la cité unie en sorte renforcé.
Mais est-ce que ça marche au fond et jusqu'où ça marche?
Il y a des sursauts. Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent à reconstituer ces clivages, à les souligner, à lutter en quelque sorte. Mais c'est quand même très fort. Je pense que si aujourd'hui la LQR devenait inaudible, ce serait pour l'oligarchie dominante, extrêmement grave. D'ailleurs, je pense que si cette oligarchie dominante a considéré comme tellement étonnante et redoutable aussi bien les élections de 2002 que le référendum de 2005, ce n'est pas tant par ce que ça a entraîné d'institutionnel ou de politique, c'est parce que c'était des formidables ratés de la LQR. Mmh. Et ça leur a fait très peur. Que la LQR ne fonctionne plus, et on verrait bien ce qui se passerait dans les rues.
Comment se protéger de ça dans la vie quotidienne? Parce que on va rendre les auditeurs complètement parano, ils vont devenir complètement aphasiques, ils vont plus oser parler.
Non, les auditeurs, la plupart d'entre eux, ne la parlent pas, cette langue. C'est pas une langue populaire.
Ah voilà.
C'est pas une langue populaire. C'est pas la langue des rues. La langue des rues, c'est quelque chose d'au fond assez charmant. Depuis qu'il y a des rues, il y a une langue des rues. Mmh. Alors, il y a des fois des expressions qui durent une semaine ou une saison, et puis il y a des nôtres qui finissent par entrer dans la langue et finir à l'Académie française. La langue des rues, c'est créatif, c'est souvent drôle, c'est souvent bien trouvé. La LQR n'est pas une langue populaire. Vos auditeurs, nos auditeurs, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ne la parlent pas. Alors le tout, c'est qu'ils l'entendent pour ce qu'elle est. La chose qu'elle cherche essentiellement à cacher. Enfin, elle. Là, quand on dit ça, on a l'air de retomber dans la théorie du complot. Mais c'est une langue qui n'apparaît pas en tant que telle, voilà. C'est là qu'elle est la plus insidieuse et la plus dangereuse. C'est parce qu'elle n'apparaît pas pour ce qu'elle est. Et si un livre comme celui-là peut servir à quelque chose, c'est que les lecteurs, après l'avoir fini, s'ils n'ont pas été ennuyés, qu'ils arrivent jusqu'au bout, les lecteurs, quand ils l'ont fini, eh bien, je pense qu'ils écouteront peut-être un certain nombre de gens et de phrases et de journaux. Ils liront des journaux avec un œil et une oreille différentes, peut-être.
Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris ce que t'as dit. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas ce que tu dis. Si j'ai bien compris, personne ne comprend ce qu'il dit. C'est politique. Ou c'est pas politique. J'ai trop fumé. Ou j'ai trop picolé. J'ai m'a dit qu'il pense pas ce qu'il dit, mais qu'il pense que quand c'est dit. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris ce qu'il a dit. Qui sait s'en mêler? Il Il est un mec qui sait ce mec. Moi j'aime ce mec.
Éric Azan va continuer avec un autre livre que vous avez publié récemment qui s'appelle Faire Mouvement. C'est aux éditions Les Prairies Ordinaires.
Oui. Un œil à Pérec.
C'est très beau, hein, Les Prairies, oui. Prairies Ordinaires. Et c'est un entretien avec un philosophe qui s'appelle Mathieu Pote-Bonneville. Et là, vous parlez de vous, là. C'est plus, là, vous parlez du langage dans LQR, la propagande du quotidien aux raisons d'agir. Ça, c'est sur le langage. Mais là, tout d'un coup, vous parlez de vous. C'est un entretien où vous racontez votre parcours, vos vies multiples de chirurgien. Vous avez été longtemps chirurgien, votre vie d'éditeur aux éditions Azan, c'est-à-dire que vous avez repris la maison du père, du papa Azan. Maintenant, c'est les éditions de La Fabrique. Et vous dites d'emblée, ce qui lie ces vies qui ont l'air un peu disparates comme ça, c'est la politique.
Oui.
Le politique.
Oui, je sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est ce qui m'a toujours intéressé toute ma vie. Et au fond, je suis assez content, à un âge relativement avancé, d'être arrivé à La Fabrique à véritablement pouvoir défendre les idées qui me tiennent à cœur, ce qui m'était pas extrêmement facile quand j'étais chirurgien cardiaque ou éditeur d'art. Ce que j'ai toujours cherché à faire, à cet égard, on peut dire que me suis toujours comporté comme un politique, c'est j'ai toujours essayé de me comporter sur le mode de l'égalité avec les gens qui travaillent avec moi. J'ai toujours essayé, je dis pas que j'y suis parvenu. Je connaissais pas Rancière à l'époque.
Jacques Rancière.
Oui. Jacques Rancière, oui. Qui aime bien dire l'égalité de n'importe qui avec n'importe qui. Et ça, c'est fondamental. Pour moi, c'est quelque chose qui... Vraiment, c'est peut-être le fil rouge de ma vie. C'est essayer de respecter cette idée de l'égalité de n'importe qui avec n'importe qui. Même à l'intérieur d'un service de chirurgie cardiaque, c'est pas facile, hein. Mais ça a valeur politique.
Alors, vous avez aussi une autre corde à votre arc. C'est une passion, une connaissance intime de Paris. Vous avez publié un bouquin qui s'appelle L'invention de Paris aux éditions du Seuil et qui est une balade érudite, poétique et toujours politique à travers Paris.
Oui, très politique. Beaucoup de gens qui ont aimé ce livre y ont vu essentiellement le côté balade pittoresque et historique, mais pour moi c'est un livre politique. Je pense que Paris est une ville éminemment politique et on le voit aujourd'hui où elle est vraiment prise d'assaut par, disons, la bourgeoisie, hein, où il ne reste plus de quartiers populaires que dans le nord et dans l'est, comme toujours d'ailleurs. Mmh. Le nord et l'est de Paris ont toujours été les quartiers populaires de Paris. Mais on voit se dessiner l'évolution immanquable vers l'abandon de ce centre de Paris et l'extension de la ville vers le dehors, comme ça s'est toujours produit depuis Charles V. Donc je pense que Paris est une ville, une espèce de laboratoire de la politique urbaine et de la politique tout court.
Mais est-ce que vous relevez dans l'invention de Paris en vous référant à la Commune, très souvent c'est un des domaines qui vous... Enfin, un épisode historique qui vous passionne, la Révolution française aussi. Et ça, tout ça, c'est en liaison avec un bouquin que vous avez sorti il y a 2 ans, 2004. Alors là, c'était dans votre maison d'édition La Fabrique, les chroniques de la guerre civile. C'est-à-dire que ça, c'est aujourd'hui, c'est un journal tenu au jour le jour, enfin au fil des événements.
Et il y en a eu des événements parce que c'était de l'été 2002 à l'été 2003, la guerre d'Irak. C'était vraiment une année. Quand j'ai commencé. Je savais pas, mais c'était une année qui a été vraiment particulièrement mouvementée.
C'est-à-dire que ce que vous soulignez toujours, c'est, au fond, vous avez cette vieille culture française de la guerre civile, quoi, de l'opposition entre des forces, entre des masses, et vous voyez une lutte de classe permanente qui continue,
oui.
Qui est déguisée, qui est masquée, qui est euphémisée, qui est tout ce qu'on voudra, mais enfin, il y a une lutte de classe qui continue.
Pendant 3 ans, j'ai habité, mon métro, c'était Barbès. Alors, si on habite que votre métro, c'est Saint-Placide, ou même Bastille, la guerre civile, on la voit pas. Mais si le métro c'est Barbès, la guerre civile, on la voit tous les jours. On voit tous les jours la police en patrouille par trois, arpenter, interroger, fouiller, emporter, emmener, détruire les petits réchauds des Pakistanais qui font cuire des marrons, emmener des vendeurs de Marlboro. C'est une troupe d'occupation dans le 18e arrondissement, entre le métro Barbès, le métro Château-Rouge, la Goutte d'Or. C'est une troupe d'occupation qui se comporte comme une troupe d'occupation. La foule les entoure sans les voir. Eux-mêmes se comportent avec comme des étrangers. Et d'ailleurs, le commissariat de police de la Goutte d'Or est connu pour ce qui s'y passe dans tout Paris, parce qu'il y a beaucoup de différences d'un commissariat de police à l'autre.
3, 6. Je comprends que les gens qui comprennent que je ne les comprends pas, je les comprends.
Eric Hazan, on va finir l'émission. Vous préparez quoi? Qu'est-ce que vous nous préparez comme coup?
Là, nous allons sortir un livre, un collectif, à la fabrique, hein, un collectif qui va s'appeler La République mise à nu par son immigration. Un collectif qui est dirigé par une sociologue qui s'appelle Nassira Guenif, où on reprend les mots et les notions qui ont servi depuis que les voitures brûlent. Le voile, l'antisémitisme, le machisme, la violence, la laïcité, on les reprend et on les remet la tête en haut et les pieds en bas.
Donc ça revient un peu à la LQR, c'était vous repartez du langage.
Ça part des mots, mais c'est pas une étude sur les mots, c'est une étude sur les notions et sur la manière dont on en a fait usage et mésusage.
Merci Eric Hazan.
C'était un entretien de Daniel Mermet avec l'écrivain Eric Hazan. Eric Hazan, dans le livre LQR, la propagande du quotidien, sort ce mois-ci aux éditions Raison d'agir. Durant l'émission, Daniel Mermet a également fait référence à un autre bouquin d'Eric Hazan, Faire mouvement, qui est paru, lui, l'an passé aux éditions Prairie Ordinaire. Enfin, si vous voulez voir Eric Hazan en chair et en os, il sera demain, jeudi, à 20h, à la librairie de l'Atelier, dans le 20e, à Paris. Toutes ces informations sont disponibles sur le site de Radio France, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Rémi Quincet, Clément Léotard, une émission réalisée par Yann Chouquet et Coyen Guyenne, assistée de Pascal Pascariello. Et le chef du répondeur, c'est Christophe Imbert, à joindre au 01 56 40 37 37.